Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à lire dans le Nouveau Testament l'Évangile de Luc, chapitre 14, les versets 25 à 33. C'est le quatrième texte du jour. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou « Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Devenir disciple de Jésus, porter sa croix, suivre Jésus comme modèle, c'est un projet pour la vie. Le texte nous dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Au cœur de son ministère, Jésus agit et enseigne. Des malades, aveugles, paralysés, lépreux sont guéris. Les abus du pouvoir religieux de l'époque sont dénoncés. Le royaume de Dieu est annoncé. L'invitation à la table royale est ouverte à tous. Dans les chapitres précédents, Jésus parlait du royaume. La maison du maître est vaste et le dîner généreux. C'est le bon plan. Suivre Jésus et entrer dans cette nouvelle vie à sa suite. La foule adhère au message, s'enthousiasme pour la nouveauté, au risque de s'affranchir de la réalité de son quotidien. Et voilà la douche froide. Père, mère, femme, enfant, frère, sœur, et même notre propre vie doivent être haïs. Comment Jésus peut-il demander de détester ses proches et même sa propre existence ? Prendre à la lettre au premier degré cet enseignement irait dans le sens contraire de ce que Jésus enseigne en général. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, qu'il soit de ta famille ou pas, comme toi-même. Luc 10, verset 27. C'est la loi, c'est la règle qui doit animer l'action des enfants de Dieu. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12. Prendre soin de la famille reste un enseignement central de la Bible. La famille dans la parole de Dieu reste une entité que Dieu aime. De nos jours, dans les milieux chrétiens, on décrit souvent la famille modèle. Un père, une mère et des enfants sages et bien élevés qui vont en habit de dimanche à l'église et à l'école du dimanche pour les enfants pour y recevoir un enseignement et une nourriture spirituelle pour la semaine. Tous ceux que ça arrange ont retenu la recommandation de Paul. Femme, soyez soumise. Marie, aimez vos femmes, mais c'est vous le chef. Enfants, obéissez à vos parents. Et de temps en temps, on entend également, parents, n'irritez pas vos enfants. C'est souvent le modèle mis en avant de nos jours, mais qui n'existe pas vraiment dans les familles dont la Bible parle. Dès l'origine, les frères s'entretuent, Caïn et Abel. Les patriarches, pour s'assurer une descendance, n'hésitent pas à féconder leurs servantes. La jalousie amène les frères de Joseph à le vendre comme esclave pour l'Égypte. Ce dernier, pour sauver sa famille de la famine, l'installe sur les terres du Pharaon, où toute leur descendance finira en servitude, en esclavage. Polygamie et adultère sont fréquemment évoqués. Aucun modèle familial idéal ne saute aux yeux. Mais néanmoins, la famille dans la Bible est une entité où l'on exerce l'entraide, la solidarité, la transmission des valeurs, l'entretien de la mémoire de l'œuvre de Dieu, de son projet pour son peuple et projet pour l'ensemble des nations de la terre. La famille de l'Ancien Testament regroupe toujours plusieurs générations et plusieurs noyaux familiaux, ainsi que les ouvriers agricoles et éventuellement les esclaves. Ils sont installés ensemble pour vivre sur une terre qu'ils mettent en valeur pour subvenir aux besoins de leur vie quotidienne. De nos jours, l'évolution de nos sociétés et de nos législations font réapparaître des familles complexes, éclatées, recomposées, monoparentales. La famille idéale n'est pas la règle, et même si elle paraît exemplaire, en grattant un peu le vernis de la façade, apparaissent rapidement des fissures et des tensions. Toujours est-il, pour revenir à notre texte, que Jésus interpelle tous ceux qui aspirent à le suivre en affirmant « Vous pouvez, ou vous devez, vous libérer du boulet de l'attachement à la famille si cela entrave votre liberté à me suivre. » C'est une interprétation personnelle qui, je pense, qui va dans l'esprit du texte. Et il enchaîne avec deux histoires, une qui concerne nos projets, nos réalisations matérielles, et une qui concerne l'exercice du pouvoir, le combat pour montrer sa force. Jésus rejoint chaque individu dans ses préoccupations. Il parle chantier, projet de construction d'une tour, un symbole de grandeur, une mise en œuvre technique élaborée, une dépense considérable, un chantier qui dure dans le temps, le projet d'une vie. Jésus nous dit que, avant de se lancer, il faut s'asseoir pour calculer et planifier, pour s'assurer que le projet pourrait être complètement réalisé. Si le chantier n'arrive pas à son terme, on se moquera du maître d'œuvre qui perdra son rang social, raté, ruiné, marginalisé, condamné peut-être à vivre dans la rue. Par cette anecdote, parfaitement compréhensible par chacun, Jésus dit également que pour nos projets de vie, si nous voulons le suivre, avant de se lancer dans un chantier à l'issue incertaine, il faut s'asseoir et calculer, construire une tour. Quel intérêt ? Engager des dépenses au-delà de nos moyens, ça finit mal en général. Suivre Jésus, c'est s'asseoir et calculer avant de se lancer dans des chantiers au final inutiles. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, mieux vaut s'abstenir. Deuxième anecdote, un roi qui va faire la guerre. Jésus ne précise pas la nature du conflit à l'origine de la guerre. Mais là encore, avant de lancer les hostilités, il faut s'asseoir, recueillir les informations qui permettent de mettre en œuvre une stratégie potentiellement victorieuse, plutôt que de se faire anéantir par les forces ennemies. S'asseoir et réfléchir peut amener le roi à une alternative au combat violent. L'envoi d'une ambassade pour demander la paix. Suivre Jésus, c'est renoncer à l'exercice du pouvoir violent. C'est rechercher des solutions alternatives à l'affrontement brutal et à l'issue incertaine. En quelques phrases, Jésus nous rejoint dans l'ensemble des préoccupations de notre vie terrestre et nous invite à nous interroger sur nos priorités, notre famille, nos projets et notre façon d'exercer le pouvoir ou de participer simplement à l'exercice du pouvoir. Suivre Jésus, c'est renoncer à tout ce que l'on possède. C'est suivre une autre voie. Jésus nous dit clairement, dans ta vie, avant de te lancer, assieds-toi et réfléchis deux secondes. Il existe des alternatives aux projets matérialistes ambitieux et souvent inutiles, voire délétères pour la planète. Il existe une alternative au combat violent et meurtrier qui n'engendre que souffrance, misère et désolation. Suivre Jésus, c'est participer à un projet de restauration, un projet de construction durable, de relations équilibrées. Notre nature humaine incline notre pensée et notre cœur à la méchanceté. Jésus nous invite à le suivre en tournant le dos à nos penchants naturels. S'asseoir et réfléchir, porter sa croix, renoncer à ce que l'on possède et se mettre en action pour participer à la construction du royaume de Dieu. Rechercher la paix, la justice, la réconciliation, l'amour, aidera à réparer, à restaurer le monde initial que Dieu a créé en son temps. Dans la confession de foi des églises mélonites, il existe un chapitre sur le discipulat et la vie chrétienne, et nous pouvons y lire « Suivre Christ implique nécessairement de ne pas nous conformer au monde. » Suivre Jésus implique une distanciation, voire une rupture avec certains schémas de pensée et certaines pratiques individuelles ou institutionnelles présentes dans la société. Faire la volonté de Dieu plutôt qu'à poursuivre obstinément un hypothétique bonheur personnel. C'est ne pas commencer un projet qui n'aboutira pas, dont l'échec réduit nos efforts à néant, amène nos cris et rend notre action inutile, voire contre-productive. Faire la volonté de Dieu, c'est agir pour la paix et la justice plutôt que par la violence et les moyens de coercition. C'est choisir d'envoyer une ambassade, une délégation diplomatique pour négocier la paix plutôt que d'engager un combat violent et destructeur. La confession de foi évoque également la gestion chrétienne des biens. En ce qui concerne les biens matériels, ce à quoi Jésus fait directement allusion quand il dit de renoncer à tout ce que nous possédons. La confession de foi dit « Nous croyons que nous sommes appelés à une vie simple, s'enracinant non dans la glorification du dénuement, mais dans la dépendance de Dieu, le propriétaire de toutes choses. Nous reconnaissons que nous dépendons des dons généreux de Dieu pour notre nourriture, nos vêtements, notre salut et même notre vie. Nous n'avons pas besoin de nous cramponner à notre argent et à nos biens, mais nous pouvons partager ce que Dieu nous a donné, par exemple en aidant mutuellement afin que personne ne manque du nécessaire dans la famille de foi. L'entraide, le partage et la solidarité prolongent les pratiques du peuple d'Israël qui devait prendre un soin tout particulier des veuves, des orphelins, des étrangers, et de toute personne en situation de détresse économique. Suivre Jésus n'est pas seulement un choix spirituel avec l'assurance d'une vie éternelle à ses côtés, c'est également prendre position dans notre société actuelle pour que les valeurs du royaume de Dieu s'opposent aux valeurs d'une société matérialiste injuste et violente. En suivant Jésus, nous ne regardons pas seulement à la croix, mais au-delà de la croix, à la joie de la résurrection. Nous plaçons notre espérance dans la justification que Dieu accorde à ceux qui empruntent le chemin étroit qui conduit à la vie. Selon 2 Timothée 2, versets 11 et 12, si nous sommes morts avec Christ, donc porter sa croix, renoncer à ce que nous possédons, nous vivrons également avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, dans ce royaume de Dieu que nous appelons à venir sur la terre comme au ciel. Pour conclure, suivre Jésus, c'est s'asseoir et réfléchir. Le psaume 90 qui a été lu ce matin décrit une vie d'homme qui fleurit le matin et elle passe. L'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Néanmoins, appliquons nos cœurs à la sagesse pour que la grâce de l'Éternel soit sur nous et affermisse l'ouvrage de nos mains. Le Proverbe 8, verset 35 nous rappelle que celui qui trouve la sagesse a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Onésime, l'esclave fugitif prisonnier avec Paul, fait le choix de suivre Jésus et il pourra bénéficier pour sa vie ici-bas d'une remise de dette, d'une libération et être accueilli par Philémon comme frère en Christ. L'Évangile, l'enseignement de Jésus ne concerne pas seulement notre vie spirituelle, notre relation personnelle avec Dieu, en dehors de l'aspect matériel de notre vie. Suivre Jésus, ce à quoi nous sommes appelés à la suite de notre conversion, implique de nous engager dans notre milieu familial, nos projets de vie, nos choix de société, pour le projet de Dieu révélé dans la Bible. Soyons vigilants et attentifs aux paroles de Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas se laisser accaparer par notre entourage, notre famille biologique. Ce n'est pas se lancer dans des projets inutiles, coûteux et chronophages. Ce n'est pas livrer des combats violents pour imposer une idéologie différente à des personnes qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Suivre Jésus, c'est se rendre disponible pour l'écouter, afin que son enseignement guide nos actions et nos réflexions, pas seulement dimanche matin, mais tout au long de la semaine, afin que le peuple de Dieu puisse jouer son rôle de sel de la terre dans notre monde contemporain. Amen.